Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Asie orientale, nous retrouvons nos invités. Valérie Niquet, maître de recherche responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Jean-Marie Bouissou, spécialiste du Japon, directeur de recherche à Sciences Po et représentant de Sciences Po au Japon. Et en studio avec moi à Paris, Marianne Perrondoise, qui est senior analyste sur les questions de sécurité en Asie. Marianne Perrondoise, on a terminé la première partie de cette émission sur la relation Chine-Japon. Japon, en évoquant bien sûr les tensions qui prévalent dans la région actuellement et depuis de nombreux mois. Valérie Niquet évoquait l'idée que la Chine avait comme souci de conserver la main par rapport au Japon. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de la relation entre la Chine et le Japon ? Jean-Marie Bouissou évoquait le fort coût qu'aurait un conflit entre la Chine et le Japon. Que dire des relations à la fois politiques et économiques ? Les deux pays sont extrêmement imbriqués sur le plan économique.
Oui, vous avez raison. C'est un élément qu'on ne rappelle sans doute pas assez quand on se focalise sur les tensions en Asie orientale et quand on évalue les rapports de puissance entre les deux marines, puisqu'il faut bien parler aussi de la dimension maritime de ce conflit et aussi du fait que c'est bien l'Asie maritime que l'on est en train de considérer avec la plupart des puissances navales mondiales. Quand on parle des États-Unis, c'est bien la première marine mondiale. La Chine, dit-on, est en passe de déclasser les États-Unis et le Japon n'est pas loin derrière. Donc il y a ce tableau maritime à garder en perspective avec une tension sur l'énergie qui nous ramène à la question de la croissance du développement économique. Et c'est vrai que l'on sent bien que ce souci de garder un taux de croissance à un niveau acceptable par sa population guide évidemment la Chine dans la plupart de ses revendications maritimes parce que derrière se trouve l'accès à des ressources énergétiques, l'accès à des richesses naturelles qui deviennent pour elle extrêmement cruciales, sans oublier effectivement l'aspect pêche et la population de pêcheurs chinois qui vont dans les parages des Senkaku tout simplement pour assurer un quota de pêche minimum qui est vital pour eux. Donc il y a cet aspect économique qui est extrêmement important et qui sous-tend effectivement les conflits et qui donne un côté assez difficile à résoudre, si ce n'est par le biais de coopération, d'exploitation conjointe, solutions qui ont été évoquées à plusieurs reprises, mais qu'apparemment la Chine a du mal à accepter et à mettre en œuvre, quelles que soient les déclarations qu'elle a pu faire à ce sujet.
Alors la question de Taïwan, et je me tourne peut-être vers vous Valérie Niquet, elle est aussi extrêmement importante dans les revendications de la Chine par rapport aux îles que nous avons évoquées. On peut reparler des îles Senkaku ou Diaoyu selon le côté duquel on se place, ou bien l'atoll de Scarborough. Quelques mots sur la question taïwanaise avec des choses nouvelles qui sont intervenues cette année, des échanges de visites.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis que le Kuomintang, le parti nationaliste, est à nouveau au pouvoir à Taïwan, la question de Taïwan, évidemment, s'est considérablement apaisée et on a eu une multiplication des contacts, dont des contacts à très haut niveau cette année, et que donc il semble que les autorités chinoises, ayant besoin d'une zone de test, entre guillemets, de la volonté d'intervention, par exemple, des États-Unis dans la région, ou une zone de test de leur capacité à imposer leur puissance en Asie. Taïwan a longtemps joué ce rôle-là. Aujourd'hui, ça s'est déplacé, semble-t-il, sur les questions territoriales maritimes face au Japon ou en mer de Chine méridionale. Donc la question de Taïwan est moins importante aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas revenir sur le devant de la scène si les résultats des prochaines élections à Taïwan amenaient au pouvoir à nouveau un parti plus hostile au rapprochement avec Pékin. Par ailleurs, il y a un élément très important à Taïwan, c'est qu'à l'occasion de cette visite d'un haut dignitaire chinois à Taïwan, eh bien, il y a eu des manifestations anti-chinoises contre le continent extrêmement importantes. Et il y a tout un mouvement démocratique à Taïwan qui s'est développé, le mouvement des tournesols, avec des manifestations très importantes et certaines assez violentes. Donc on voit bien que la position de la population taïwanaise sur une éventuelle réunification avec la Chine telle qu'elle existe aujourd'hui est loin de faire l'unanimité.
Jean-Marie Bouissou, la question taïwanaise à Tokyo, qu'est-ce que l'on peut dire de la relation du Japon avec Taïwan ?
La première chose qu'il faut savoir, c'est que sur le point chaud des relations entre le Japon et la Chine, c'est-à-dire les Senkaku, les Taïwanais sont exactement sur la même ligne que Pékin. C'est-à-dire que les Taïwanais revendiquent aussi les Senkaku. Maintenant, les choses ont un petit peu changé, mais dans les débuts des tensions, quand il y avait des bateaux de militants qui venus de Chine qui tentaient des débarquements sur les Senkaku, ces bateaux arboraient souvent le double pavillon de Chine continentale et de Taïwan. Pour ce qui concerne le reste, les Japonais font extrêmement attention à n'avoir aucune espèce d'implication dans la politique intérieure de Taïwan, parce qu'ils savent que ce serait contre-productif de toute façon. Donc, de fait, on parle assez peu de Taïwan. C'est considéré comme l'affaire des États-Unis, la défense de Taïwan, pas celle du Japon. Et les relations entre Taipei et Tokyo sont certes soutenues, mais elles sont très très généralement sous la ligne de visibilité médiatique.
Marianne Perrandoise, vous partagez ?
Oui, tout à fait. C'est assez intéressant parce que je vais élargir un peu la perspective, mais on voudrait pas. Il y a quand même deux facteurs d'incertitude stratégique récurrents en Asie orientale. C'est la question de Taïwan et c'est la question de la péninsule coréenne. Et on a l'impression finalement que devant la montée des tensions navales entre la Chine et le Japon, l'intérêt effectivement stratégique s'est déplacé et on a tendance à minorer ces deux facteurs qui ont toujours été considérés par les stratèges comme étant des facteurs de guerre potentielle en Asie orientale ou en tout cas des facteurs susceptibles de conduire à des conflits mettant en jeu des alliances. Or, Taïwan, on considère que la situation est sous contrôle et Taïwan, en l'occurrence, peut assez facilement suivre la ligne chinoise en matière de litige maritime face au Japon. Et effectivement, la question coréenne, elle est totalement mise de côté alors que son potentiel crisogène reste absolument entier et que la Chine ne semble pas avoir un grand contrôle du régime du jeune leader, alors que Jean-Marie Buissou a fait remarquer qu'il y aurait une embellie entre le Japon et la Corée du Nord ces derniers mois. C'est quand même intéressant à constater.
Alors j'en profite pour reparler de la Russie qu'évoquait tout à l'heure Jean-Marie Buissou en parlant de ce rapprochement entre la Russie et le Japon et que la crise ukrainienne était venue faire poser des questions sur le bien fondé de la stratégie japonaise. La Russie est également présente sur la question nord-coréenne avec notamment cette proposition faite par Moscou d'annuler la dette de la Corée du Nord. Un commentaire là-dessus qui veut répondre Valérie Niquet, Jean-Marie Buissou.
Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que la Corée du Nord essaye véritablement de retrouver une marge de manœuvre, que ce soit avec la Russie ou avec le Japon, qui a d'ailleurs pris des mesures extrêmement significatives, puisque le gouvernement Abe vient de lever les sanctions financières qui interdisaient le transfert de fonds très importants du Japon vers la Corée du Nord. Donc les mesures prises par Abe en faveur de la Corée du Nord sont extrêmement importantes. Donc effectivement, à la fois la Corée du Nord veut se trouver de nouveaux alliés pour se libérer un peu du carcan chinois, et la Russie s'intéresse beaucoup à l'Asie. On a énormément parlé du partenariat stratégique russo-chinois lors de la visite de Poutine en Chine et puis la signature de cet accord gazier dont d'ailleurs on ne connaît pas toutes les précisions. Mais comme le disait Jean-Marie Buissou, la Russie aussi veut avoir plusieurs partenaires en Asie et pas uniquement la Chine. Poutine était très favorable à un rapprochement aussi avec le Japon. Évidemment, la question ukrainienne pose un problème compliqué à Tokyo aujourd'hui. Les Japonais, pour le moment, signalent qu'ils n'ont toujours pas annulé l'invitation qu'ils avaient lancée à Vladimir Poutine pour se rendre au Japon cet automne. Et on sent qu'à Tokyo, on espère que la situation sera suffisamment apaisée pour que la poursuite du rapprochement stratégique avec Moscou, encore une fois pour équilibrer la puissance chinoise, puisse se poursuivre.
Jean-Marie Buissou, un commentaire sur ce que vient de dire Valérie Niquet. Et ensuite, j'aimerais beaucoup qu'on parle un petit peu de l'Inde.
Oui, tout a été dit, je crois, sur la relation entre le Japon et la Russie aujourd'hui. Effectivement, d'un côté, Poutine est toujours demandeur, puisqu'il veut garder plusieurs fers au feu en Asie. D'un autre côté, les Japonais le sont aussi, parce que avoir un allié russe sur le front nord chinois, ça serait évidemment un très gros renforcement géostratégique. Mais les Japonais se sont fait très sérieusement donner sur les doigts par les Américains, quand ils ont été, disons, très lents à prendre position sur ce qui se passait en Ukraine. Donc de ce point de vue-là, la diplomatie japonaise est quand même extrêmement contrainte.
Marianne Perrandoise.
Oui, sur le facteur russe, il est loin quand même d'être négligeable en Asie orientale. Et c'est vrai que la Russie a un schéma de développement de long terme et des ambitions et une identité extrême orientale que le gouvernement Poutine essaye de rénover. Alors évidemment, la Russie est actuellement très isolée sur le plan international, donc trouve un intérêt manifeste à s'appuyer sur cette alliance d'opportunités qu'elle entretient à loisir avec la Chine. Et la Chine, évidemment, de son côté, quand même très isolée en Asie orientale, eh bien, s'affiche aux côtés de la Russie et y trouve effectivement aussi un avantage. Et pour terminer avec les ambitions russes en Asie, il y a ce schéma de développement, ne n'oublions pas, de la route du Nord-Est, qui, via l'Arctique et profitant de la fonte des glaces, va intensifier le commerce potentiel de la Russie avec les pays asiatiques. Et la Chine, comme le Japon, y voit un intérêt commercial évident. Ça va raccourcir considérablement les distances et ça va permettre effectivement d'intensifier un flux de marchandises et peut-être effectivement d'installer plus durablement la Russie dans le paysage économique et commercial de l'Asie orientale.
Quelques mots sur l'Inde, donc la question de l'Inde et de son intégration régionale en Asie. On voit New Delhi faire avancer des négociations de libre-échange avec différents partenaires asiatiques. On parle d'un arrimage progressif d'un acteur somme toute périphérique dans la région. Valérie Niquet, qu'est-ce que l'on peut dire rapidement de la stratégie de l'Inde ?
Alors pour le moment, il y a encore des points d'interrogation puisqu'on ne sait pas encore parfaitement quelles seront les futures orientations stratégiques du nouveau gouvernement indien. Ce qui est certain, c'est que les Chinois ont immédiatement lancé une invitation pour que le nouveau Premier ministre indien aille leur rendre visite pour essayer en quelque sorte d'éviter de mettre un coin dans cette alliance des démocraties qui unirait l'Inde, le Japon et les États-Unis et l'Australie. Pour le moment, toutefois, la première visite, je crois, importante que fera le Premier ministre indien à l'étranger, ce sera aux États-Unis et il est également invité au Japon. Donc il semble qu'il y ait plutôt une continuité dans la stratégie indienne qui est de tenter, encore une fois là aussi, d'équilibrer la puissance chinoise en se rapprochant d'autres acteurs importants au niveau régional et avec les États-Unis.
Alors, on a bien compris au fil de vos différentes interventions, tous ces points de tension entre les uns et les autres, en particulier sur le plan politique. La question qui vient après, c'est est-ce que finalement l'interdépendance économique n'est pas entre les uns et les autres suffisamment forte pour permettre d'éviter un conflit ? Et pour imaginer un peu cette redistribution du pouvoir en Asie, redistribution à venir, ce qu'on voit, c'est que la Chine va dépasser probablement les États-Unis. La question qui se pose, c'est de savoir à quelle échéance. Les pays de l'ASEAN en 2010 représentaient 10% de l'économie mondiale. Tout laisse à penser qu'ils vont faire mieux d'ici à 2020-2025. Quelles répercussions cela aura-t-il sur la région, Jean-Marie Bouissou ?
Je voudrais relever d'abord ce que vous avez dit, à savoir que l'interdépendance économique serait ipso facto un facteur de paix.
Pas de façon évidente, mais possiblement.
Possiblement, oui, on le disait déjà.
Ça me rend plus prudent.
La guerre entre la France et l'Allemagne est impossible parce qu'il y a une interdépendance économique. Et on a bien vu qu'un incident déclenché par un acteur secondaire a quand même fait éclater la conflagration. Donc il faut se méfier de cet argument, y compris dans la vie d'aujourd'hui. En ce qui concerne la montée en puissance de l'Asie, évidemment, l'Asie est en passe de devenir le deuxième centre de gravité, si on peut parler de deux centres de gravité de l'économie mondiale, c'est très clair. Il y a quelque chose qui est très important de ce point de vue-là, y compris sur le plan géopolitique, ce sont les négociations actuelles du partenariat transpacifique, l'équivalent côté pacifique du traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe.
Qui n'est pas encore fait.
Aujourd'hui, nettement plus avancé que les négociations transatlantiques et qui, si elles aboutissent, seront quelque chose de très important, notamment au détriment de Pékin. Parce que la Chine, pour des raisons multiples, ne saurait être partie prenante de ce traité, mais qui pourrait créer une zone, en gros, répondant à la logique économique libérale, donc créer des solidarités, y compris avec le Vietnam. Par exemple, le Vietnam est très engagé dans les négociations du TPP, qui poserait de gros problèmes, certainement, à la Chine.
Vous voulez dire, Jean-Marie Bouissou, qu'à mesure que l'on va avancer dans ce partenariat transpacifique, la tension va aller croissant, c'est cela que j'entends?
Ça serait effectivement pas impossible, parce que si le TPP est conclu avec succès, ce qui n'est pas encore évident, globalement, le camp qui s'oppose aux prétentions à l'hégémonie chinoise régionale ou à la suprématie chinoise régionale serait renforcé.
Les échéances ?
Les échéances, eh bien, actuellement, on est en pré-négociation. Les deux gros acteurs, les deux acteurs mal décisifs sont évidemment les États-Unis et le Japon. Et il faut d'abord trouver un terrain d'entente, ce qui n'est pas encore fait, entre les États-Unis et le Japon. Ça devait être fait déjà l'année dernière. L'échéance se devrait être faite à la fin de cette année. Il semble que ce soit pas gagné d'avance.
Valérie Niquet, un commentaire sur cette tension
Le commentaire, c'est que si le TPP se réalise, ce sera effectivement pour des raisons sans doute au moins autant géostratégiques que économiques. C'est une réponse aux formats régionaux que la Chine tente de mettre en place, notamment avec les pays de l'ASEAN, donc ils occupent une place très importante. L'autre élément important à noter en termes de régionalisation, d'intégration régionale, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'interdépendance entre le Japon et la Chine et des investissements japonais en Chine qui restent significatifs. Mais très évidemment, depuis quelques mois, et beaucoup plus que lors des dernières crises dans les années 2005-2006, le Japon aujourd'hui a tendance à se tourner vers d'autres lieux, destinations d'investissement, et notamment en Asie du Sud-Est, mais aussi en Inde, après avoir eu pendant des années une certaine réticence. La Chine était beaucoup plus pratique, entre guillemets, potentiellement importante pour le Japon. On voit bien que le Japon s'inquiète de l'avenir de ses relations avec la Chine et que les entreprises japonaises, de plus en plus, ont tendance à se tourner vers d'autres pays cibles, encore une fois, essentiellement en Asie du Sud-Est.
En résumé, Marianne Peyron-Douaz, malheureusement le temps passe, ce qu'on a bien compris, ce sont toutes ces recompositions, ces alliances, ces partenariats qui se font, dans un certain, non pas désordre, mais en tout cas, voilà, on sent bien que chacun gère un petit peu sa stratégie de façon assez personnelle. Tout cela, finalement, face à la Chine.
Oui, la région donne l'impression d'un flux, d'une recomposition dont on ne perçoit pas vraiment la direction. On a quand même le sentiment d'une certaine exaspération régionale face aux différentes tentatives d'appropriation chinoise, d'appropriation physique, on va dire territoriale, d'appropriation diplomatique selon certaines initiatives, et voire économique, puisque la Chine se montre également très agressive dans ce domaine. Et on voit, un nouveau reformatage des alliances pour essayer de contenir. Mais il y a une forme de volontarisme, c'est-à-dire que le Japon se donne l'impression de vouloir prendre l'initiative à son tour, à montrer qu'elle peut être un véritable partenaire. Et ça, non pas seulement face aux États-Unis, mais face aux pays de l'ASEAN. Et ces alliances, des démocraties entre le Japon, l'Inde, et certainement l'Australie, a tendance à s'ouvrir vers le Vietnam, et c'est extrêmement intéressant à observer. Et je pense que la Chine a pris la mesure de cette exaspération régionale, notamment lors du dernier forum du Shangri-La Dialogue, où elle a été vraiment explicitement montrée du doigt et explicitement assise au banc d'infamie.
Alors je vous laisse, Marianne Peyron-Douaz, la conclusion de cette émission, parce que malheureusement les liaisons, c'était un tout petit peu difficile avec Valérie Niquet et Jean-Marie Bouissou, que je remercie en tout cas d'avoir bien voulu participer à cette émission. C'est la fin donc de Géopolitique. Merci à Valérie Niquet, maître de recherche et responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Jean-Marie Bouissou, spécialiste du Japon, directeur de recherche à Sciences Po et représentant de Sciences Po au Japon. Et je signale donc la sortie cet automne de votre dernier ouvrage, Jean-Marie Bouissou, Géopolitique du Japon, aux presses universitaires de France. Et merci aussi à Marianne Peyron-Douaz, senior analyste sur les questions de sécurité en Asie. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte avec la contribution de la documentation. La semaine prochaine, Géopolitique vous sera présentée par Hassan Diop. À très bientôt.